L'histoire de l'Église est remplie de gens qui ont raté des choses. Sainte Thérèse d'Avila, la patronne de Thérèse. Sainte Thérèse d'Avila, je le rappelle, a refusé quelque chose à Dieu pendant 18 ans. Elle se rendait compte qu'elle péchait par vanité en se rendant au parloir de son Carmel, en Avila, pour parler de Dieu, bien sûr, mais aussi pour y briller par sa conversation. C'était une fille extrêmement attachante, extrêmement jolie. Et elle se rendait compte qu'elle péchait par vanité. Alors, Thérèse, ça sera pour aujourd'hui que tu renonces à tes parloirs. Non, Seigneur, ce sera pour demain. Pendant 18 ans. Elle pourra chanter plus tard, « Béni soit le Seigneur de m'avoir si longtemps attendu. » Docteur de l'Église. Première femme docteur de l'Église avec Catherine de Sienne. Et quand elle aura décidé de ne plus pécher par vanité, elle inventera ce système de grilles et de voiles noires pour empêcher les carmélites de pécher par vanité dans la suite des siècles. Jusqu'au XXe siècle, on se dira que les femmes sont tellement subtiles qu'elles arrivent à pécher par vanité à travers un voile et donc on peut les supprimer. J'aurai d'autres occasions de montrer que je ne suis pas du tout misogyne. Bon. Alors, il n'est pas nécessaire de gros péchés comme cela. Je prends un exemple tout à fait différent. Au cours d'une retraite que je prêchais quelque part en France, une mère de famille qui avait accompagné son mari parce qu'elle m'avait entendu faire quelques conférences et elle se disait qu'elle ne s'ennuierait quand même pas, même si elle n'allait plus à la messe depuis des années, une mère de famille vient causer avec moi et réalise la raison de son indifférence religieuse. Petite fille modèle, c'est moi qui traduis un peu sa pensée, elle ne disait pas comme ça, petite fille sans problème, petite fille très courageuse et réussissant tous ses concours, elle avait un petit défaut, c'était de bouder. Et son papa croyait bien faire en lui disant, « Tu boudes ma fille, va dans ta chambre, demain ça ira mieux. » Elle quittait la table, se privait de dessert, et le lendemain matin, elle descendait, et jamais son papa ne lui a demandé de demander pardon. À 45 ans, cette femme s'aperçoit, avec des larmes plein les yeux, que jamais dans sa vie, elle n'a demandé pardon à personne, ni à son papa, ni au bon Dieu, ni à son mari. Et c'est une conversion extraordinaire et qui dure. Pour la première fois de sa vie, elle fait un véritable acte d'humilité. Ce n'était pas du gros péché de bouder comme cela. Mais personne ne l'avait aidée. Elle n'avait pas encore reçu la grâce de comprendre que c'était bon de dire « j'ai exagéré ». Et quelque temps après, elle me disait « oh, j'ai encore fait un nouveau progrès ». Pour la première fois de ma vie, j'ai dit à mon mari, je te demande pardon. Jusque-là, elle disait, excuse-moi, je te demande pardon. Et son mari, qui était un chrétien, qui est un chrétien merveilleux, grand animateur liturgique dans sa paroisse d'ailleurs, me disait, vous savez, j'espérais qu'un jour ma femme se convertisse, mais je me disais, ce serait sans doute après ma mort. Il attendait avec une confiance inaltérable la conversion de sa femme, mais il ne savait pas pourquoi sa femme était si indifférente. Et peu importe les circonstances de notre vie, dans le ciel il n'y aura pas deux catégories, les grands pécheurs d'un côté et les petits de l'autre. Et nous faisons partie du même syndicat, le syndicat des PPP, des pauvres pécheurs pardonnés. Et Jean-Paul II n'y échappe pas. Hein? Jean-Paul II, c'est un PPP, PPP, lui, un pauvre petit pape pécheur pardonné polonais. Il n'y a pas d'exception à la règle. Mais c'est vrai que les journalistes ont tendance à considérer que Jean-Paul II se considère comme un pape à la hauteur des circonstances à la fin du XXe siècle. Hein, quand il faut faire une encyclique, je la fais. Quand il faut apprendre une langue étrangère pour visiter un pays, je l'apprends. Quand il faut se faire assassiner sur la place Saint-Pierre, me voici. Quand il faut aller pardonner à son assassin, me voilà. Je suis vraiment le pape bien. Et par conséquent, Jean-Paul II aurait écrit une magnifique encyclique sur la miséricorde sans l'avoir expérimenté lui-même. Non, nous sommes tous logés à la même enseigne. Notre grande joie dans le ciel, ça sera de chanter la gloire de Dieu, c'est-à-dire sa miséricorde. Et même la très sainte Vierge a été rachetée, comme le dit si bien le Concile Vatican II. Immaculée, elle a été super rachetée par mode de préservation et non pas par mode de guérison. Vous savez que c'est cette petite distinction inventée par celui qu'on a surnommé le docteur subtil, Duns Scott, ainsi appelé parce qu'il est d'origine écossaise. C'est Duns Scott qui a sauvé la piété populaire des chrétiens envers l'Immaculée Conception en inventant cette distinction que la Sainte Vierge a été bel et bien rachetée, mais par mode de préservation. Alors qu'est-ce qui nous permet d'accepter notre condition de pécheur? Eh bien, c'est la Bible. C'est la Bible qui ne cesse de dire que Dieu est un Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Cette formule que le théologien et exégète Étienne Charpentier a appelée la carte de visite de Dieu dans la Bible revient sans cesse dans les psaumes. Et toute la Bible, déjà l'Ancien Testament, proclame que Dieu est un Dieu qui pardonne. Je sais bien que c'est ce que vous enseignez dans vos catéchèses, que déjà les Juifs avaient un sens aigu d'être des pécheurs. Si vous demandez à un vrai Juif pourquoi Dieu a choisi le peuple juif comme peuple élu, il vous répondra sans doute parce que nous étions plus pécheurs que les autres. Bon, le véritable Juif sait que le juste pêche 7 fois par jour. Le véritable Juif sait combien le peuple de la promesse est un peuple infidèle, un peuple adultère. Toute l'histoire de la Bible, c'est l'histoire des péchés d'Israël que Dieu ne cesse de pardonner. Nous lisons en ce moment dans le bréviaire la pensée d'Osée, le grand prophète de la miséricorde. Ou bien Jérémie, « Mon peuple est-il donc pour moi un fils si cher, un enfant tellement préféré, pour qu'après chacune de mes menaces, je doive toujours penser à lui, que mes entrailles s'émeuvent pour lui, que pour lui déborde ma tendresse. » Je n'insiste pas, nous connaissons bien tout cela. Le Nouveau Testament ne dit pas que Dieu nous pardonne plus parce que le pardon de Dieu est toujours infini. Mais Jésus va nous révéler d'autres aspects de la miséricorde du Père. En nous disant, d'abord par sa façon de faire, il va manger chez les pécheurs avant que ceux-ci ne soient convertis, chose qu'aucun prophète d'Israël n'aurait osé faire. Il va loger chez Zachée, chez cet archipublicain de Zachée, qui avait l'une des plus belles places possibles dans le métier, puisqu'il récoltait l'argent de toutes les résidences secondaires de l'oasis de Jéricho. D'ailleurs, quand on peut donner 4 fois plus à quelqu'un après avoir donné la moitié de sa fortune aux pauvres, c'est qu'on a de l'argent dans son compte chèque, quoi. Hein? Bon. Ben, Zachée, Jésus se fait inviter chez lui alors qu'il n'est pas encore converti, d'où le scandale des braves gens. Il va loger chez, il se fait inviter à manger chez Matthieu, le publicain, qui lui aussi avait une très belle place, parce que publicain à Capharnaüm, c'était une très très belle place, Capharnaüm étant une place commerciale extraordinaire. Et puis, cette parabole de l'enfant prodigue, qu'il a dû mijoter pendant des années avant de la raconter telle qu'elle, où Jésus invente l'histoire d'un enfant dont la contrition est vraiment très imparfaite. Pourquoi revient-il vers son père? Non pas parce qu'il a fait de la peine à son papa, mais à cause du frigidaire. J'aurai à manger chez mon père parce que je crève de faim ici. Jésus veut nous montrer qu'on a le droit de revenir à Dieu avec des sentiments encore bien pauvres, bien imparfaits. Et puis quand il revient, il n'a même pas le temps de terminer le petit boniment qu'il avait concocté dans sa tête sur la route. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être ton enfant. Traite-moi comme un mercenaire chez toi. Comment peut-il terminer ? Il ne termine pas. Comment pourrait-il dire « traite-moi comme un mercenaire » alors qu'il est embrassé longuement par son papa chéri ? Viens ici que je t'embrasse, c'est la seule punition que je te donne, mon enfant. » Et puis surtout, surtout, ce qui nous fait accepter notre condition de pécheur, c'est évidemment le crucifix, la plus belle relique des saints. C'est devant le crucifix que tous les chrétiens de notre histoire ont réalisé de quel amour fou ils étaient aimés. C'est au moment où nous le crucifions, où nous le ridiculisons, où nous le mettons tout nu sur une croix aux portes de Jérusalem, que Jésus continue à nous sourire. Tu vois, ce ne sont pas tes péchés qui peuvent m'empêcher de t'aimer. Regarde Jésus dans sa face, disait Thérèse à Céline au moment de la maladie mentale de son père. Regarde Jésus dans sa face, là tu verras comme il nous aime. Dans la trappe de l'abbaye des Dombes, on m'a mis pendant toute une année, toute une semaine, voilà un bon lapsus, on m'a mis toute une semaine dans les mains le crucifix du curé d'Ars. Je pense que c'est la plus belle relique qu'on pouvait me donner, me prêter. C'est devant le crucifix que les saints sont devenus ce qu'ils sont devenus, parce qu'ils ont réalisé la folie de l'amour du Seigneur pour eux. Alors ils ont eu envie de faire aussi quelques folies pour lui, pour ne pas rester trop débiteurs vis-à-vis de lui.